Bonsoir, le monde entier a célébré hier lundi 10 décembre le 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous le thème inclusion et droit de participer à la vie publique. À cette occasion, l'ONG Promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme a estimé qu'il n'est pas facile pour le citoyen congolais de participer pleinement aux affaires publiques à cause des discriminations et des corruptions. Pour sa part, la ministre des droits humains a déclaré que la participation à la vie publique devra d'abord passer par la consolidation de la paix. Quelle analyse faire de la déclaration de l'ONG Promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que faire pour promouvoir la participation du citoyen à la vie publique en RDC? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mardi 11 décembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat William Baye, coordonnateur de l'ONG Promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur William, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Richard Bondo, président de l'ONG internationale Avocats sans frontières RDC. Monsieur Richard Bondo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Maître Ruffin Louco, activiste de droits de l'homme. Il est ancien conseiller juridique du ministre de la Justice et des droits humains. Maître Louco, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Tous nos efforts pour avoir quelqu'un du ministère de la Justice et droits humains sont restés vains. Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Papi Kwangiba. La paix et le droit de l'homme vont de pair. On ne peut pas prétendre respecter le droit de l'homme là au matin, midi et soir. La Kalachnikov est en train de faire la loi avec comme conséquence le déplacement de la population. Pepe Lusungi de Kisangani en province orientale. Je n'apprécie pas la déclaration de cette ONG. Si dans d'autres secteurs de la ville, le gouvernement a échoué, mais du côté de la participation à la vie publique, ça s'est amélioré 10 ans après. Il y a un grand changement. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Hier 10 décembre, le monde entier a célébré le 64e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Ici à Kinshasa, une manifestation a été organisée par le ministère de la Justice et droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies. Plusieurs messages ont été lancés à cette occasion, entre autres celui de l'ONG Promotion des droits humains, qui pense qu'il n'est pas facile pour les citoyens congolais de participer pleinement aux affaires publiques à cause des discriminations et des corruptions. Tous les messages était axé sur le thème international de la journée, à savoir inclusion et droit de participer à la vie publique. Askazik Biatayoro pour les détails.
Ce thème international pose problème au niveau national. D'après les responsables de l'ONG Promotion des droits humains qui ont pris part à cette manifestation, il n'est pas facile pour les citoyens congolais de participer pleinement aux affaires publiques à cause des discriminations et des corruptions.
Tous ceux qui travaillent dans la gestion de la chose publique, en principe, ne devraient pas être là, parce que la sélection est faite sur base de certaines affinités.
À en croire le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la RDC partage avec d'autres pays d'Afrique des difficultés d'accorder à ses citoyens la possibilité de faire entendre leur voix en vue d'occuper un emploi public de haut niveau, voire n'importe quelle charge publique. La ministre des Droits humains a estimé pour sa part que la participation à la vie publique devra d'abord passer par la consolidation de la paix. Wivine Mumba Matipa.
L'inclusion et le droit pour chaque citoyen de participer à la vie publique ne peuvent être effectifs que dans un environnement où règne la paix. Car sans ce facteur, l'on ne peut ni assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, ni organiser normalement le fonctionnement des institutions publiques.
D'après le message du secrétaire général de l'ONU, les institutions étatiques doivent représenter la société dans toute sa diversité, sans aucune discrimination.
Merci Askazik Biatayoro pour tous ces détails. Monsieur William Baye, j'espère que je prononce bien votre nom, Baye.
Parfait.
Alors vous êtes coordonnateur de l'ONG Promotion de la Déclaration universelle de droits de l'homme. Vous avez déclaré qu'il n'est pas facile pour les citoyens congolais de participer pleinement aux affaires publiques à cause des discriminations et des corruptions. Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Bon, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à ce débat qui, à mon avis, intervient à un moment où la communauté internationale et la RDC fêtent le 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Très heureux parce que les thèmes qui ont été abordés, notamment le thème national et le thème international, à mon avis, intervient comme pour nous mettre face à face. Autorité publique et organisation de défense des droits de l'homme, derrière ces organisations, vous avez les populations. La déclaration qui a été faite hier par moi-même résulte du fait d'un constat d'échec véritablement cuisant des politiques d'inclusion qui ont été menées jusque-là par des autorités. Une politique basée beaucoup plus sur une inclusion trop égoïste, trop limitée à une catégorie de personnes bien déterminées. À titre d'exemple, un ministre qui arrive à la tête d'un ministère ne peut travailler qu'avec des gens qu'il connaît, avec des gens qu'il ramasse. Parfois, parmi ces gens-là, il y a des gens qui n'ont même pas la compétence, alors que un cabinet ministériel est une fonction publique, est une organisation, une administration publique. Ça a besoin de toutes les compétences, de toutes les catégories de citoyens pour bien fonctionner. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai fait cette déclaration.
Ce constat, vous avez constaté ça ou à Kinshasa ou à travers toute la République?
Madame, ce constat ne date pas d'aujourd'hui. Hein, la République a commencé depuis 1960. Depuis, tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays ont pratiquement mis ce mécanisme-là en marche. Nous, on a suivi depuis un certain temps la réaction des populations lorsque un président de la République arrive au pouvoir, lorsqu'un ministre arrive à la tête d'un gouvernement, lorsque un système politique est mis en place, on constate effectivement qu'il y a parfois de l'exclusion qui est organisée pour mettre de côté certaines compétences dont la République a pourtant besoin.
Vous l'avez déjà dénoncé une fois, M. William Baye.
Nous avons fait des plaidoyers et des plaidoyers. Maître Bondo, à qui je dois beaucoup de respect, je salue au passage à l'occasion de cette émission, je suis d'ailleurs très heureux de l'avoir aujourd'hui. Maître Bondo fait partie également de l'équipe des défenseurs des droits de l'homme les plus acharnés contre ce système, qui ont fait des plaidoyers pour dénoncer cela. Et si aujourd'hui nous le répétons, je crois que c'est une occasion pour les autorités de saisir la balle au bon.
Alors pour la ministre des droits humains, elle a déclaré que la participation à la vie publique devra d'abord passer par la consolidation de la paix. Quelle est votre réaction?
Faux. Je m'inscris totalement en faux contre cette conception. J'ai eu l'occasion de partager avec elle hier, à demi-mot, lorsque on a terminé la manifestation, on était parti en cocktail. J'ai approché quelques amis qui sont ses conseillers, on a échangé là-dessus. Je dis que c'est faux, c'est archi faux, parce que l'exclusion ne date pas d'aujourd'hui. La guerre est l'une des conséquences de cette exclusion, de cette mise à l'écart d'un certain nombre de compétences qui auraient dû profiter au développement du pays. Donc, je m'inscris totalement en faux contre la position de madame la ministre.
Monsieur William Baye, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi Okatanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga, je pense que l'inclusion et la participation à la vie publique est un problème de la conception même de la démocratie dans notre pays. Problème de culture, des valeurs intrinsèques de ce système. Quant au propos de Madame la Ministre, pour moi, mieux serait de considérer la consolidation de la paix comme la résultante d'une gestion participative, non exclusiviste et donc égalitaire. Comme qui dirait, l'exclusion ne rime jamais avec la paix.
Réaction, Monsieur Baye.
L'auditeur a bien perçu le problème. Il dit que, apparemment, il cherche à se ranger derrière la conception de Madame la Ministre, à ce que je comprenne. Mais je dis que je persiste à croire que la paix n'est pas une condition comme telle pour participer à la vie publique. Même en temps de guerre, lorsqu'on a besoin de combattre l'ennemi, il faut associer toutes les compétences, il faut associer toutes les énergies. Lorsque vous excluez les gens pendant que le pays est en guerre, mais vous mettez le pays en difficulté face à l'ennemi. Je crois que La paix ici ne peut pas être considérée comme une condition pour qu'il y ait une véritable inclusion, une véritable participation à la vie publique.
Et vous pensez qu'en RDC, il y a une catégorie de personnes qui sont exclues de la gestion de la vie publique?
Il suffit de faire balader votre micro à travers les nombreuses populations éprises de paix, de justice et de liberté pour comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, peut-être même la majorité, qui continuent de croire qu'il faut combattre le système actuel parce qu'il est, il se repose, il est basé pratiquement sur l'inclusion.
Merci Monsieur William Baillé. Maître Richard Bondo, je rappelle que vous êtes président de l'ONG internationale Avocats sans frontières. Quelle analyse vous faites de la déclaration de l'ONG promotion de la Déclaration universelle de droits de l'homme qui estime qu'il n'est pas facile pour les citoyens congolais de participer pleinement aux affaires publiques à cause des discriminations et des corruptions?
Merci Madame, d'abord de m'avoir invité à ce débat et de m'avoir aussi associé autour de ce plateau à mon collègue William Baillé. Et je voudrais, en termes de réponse, saluer d'abord la pertinence avec laquelle l'ONG Promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme a posé ce problème avec beaucoup d'arguments. Vous savez, Madame, ce pays appartient à tous les Congolais. Et si le thème national est vraiment équivalent à celui de la communauté internationale pour cette journée, c'est parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 7, bannit toute discrimination. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, dans ses articles 12, 13 à 14, bannit également toute discrimination. Mais que vivons-nous? Je crois que Madame la Ministre, c'est d'abord de devant sa porte qu'elle doit savoir balayer avant d'aller balayer devant la porte des autres. Lorsqu'elle parle de la consolidation de la paix, je ne sais pas si avant la guerre, le système dans lequel elle travaille ou pour le compte duquel elle travaille, est-ce que ce système, dans le recrutement pour les fonctions publiques, puise des compétences à travers des critères objectifs, notamment les standards internationaux. Vous voulez être conseiller, quel est votre profil? Elle a la chance d'être ministre aujourd'hui parce que le pouvoir qui est là est réputé être de sa province. Je connais des femmes qui sont d'une compétence avérée, mais malgré le gender dont on nous rabat les oreilles à chaque sortie des membres du gouvernement, on ne sait pas, on ne voit pas ces femmes prester comme elles ministres, même pas dans des cabinets, mais c'est des femmes de compétences avérées, les hommes mêmement. Il y a des gens, aujourd'hui, parce que madame parle de la consolidation de la paix, est-ce que les officiers congolais formés dans de grandes académies militaires sont actifs dans notre armée? Et pourquoi on ne peut pas recourir à ces intelligences? C'est parce que le système estime que la discrimination est son hygiène de vie. Alors, comme William, nous pensons que ce pays ne peut aller de l'avant que si tout le monde se soumet à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Parce que quand vous lisez, madame, l'article 12 et surtout 13, c'est surtout l'article 13 pour la vie publique, l'accès aux fonctions publiques, mais vous trouverez que là, c'est un problème d'une société méritocratique. C'est-à-dire, le texte est tellement bien élaboré qu'à la première lecture, on se dit, le Congo est vraiment démocratique.
Merci, Maître Richard Bondo. On va vous redonner la parole, mais vous allez répondre brièvement à cette réaction qui nous vient de Bounia, en province orientale.
Maître Awazi Bin Chaban, de Bounia, en province orientale. On ne pourra pas faire de la paix un allié de la non-participation citoyenne à la vie publique en République démocratique. Cependant, le népotisme et l'égoïsme sont des preuves tangibles faisant obstacle à cette participation. Par ailleurs, les quelques cas d'appel à la vie publique sont en cachet de beaucoup de mafies.
Excusez-nous pour la qualité de ce son. Alors, j'espère que vous avez compris un peu.
Oui,
Maître Richard Bondo.
Oui, il est il est dépité, notre compatriote, totalement dépité du système. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas parler de la paix pendant que vous excluez certaines dépenses entières des compétences nationales. Pourquoi vous voulez, par exemple, que dans une armée, il y a des gens qui n'ont jamais été dans un centre d'instruction, mais premier grade de recrutement général, il y en a.
Et donc, pour vous, cet auditeur
a totalement raison.
Merci, Maître Richard Bondo. Maître Ruffin Louko, vous êtes activiste des droits de l'homme. Vous êtes ancien conseiller juridique du ministre de la Justice et des Droits humains. Quelle est votre analyse ou votre lecture de la déclaration de l'ONG Promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme?
Merci beaucoup. Je n'attaquerai pas la chose dans le sens offensif. Et je ne suivrai pas la ligne de ceux qui considèrent qu'au Congo, on doit peindre toujours très noir tout ce qui s'est passé. Donc, il faut mettre très noir. Non. Lorsque Mozart est arrivé, en 1997, il a trouvé qu'à l'époque, 97, le maréchal avait concentré toute son ethnie principalement au centre du pouvoir. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la sécurité, que ce soit même dans l'administration publique. Alors, il a commencé d'abord par demander à tous ses ministres, désormais, pour que vous puissiez être agréé, votre arrêté ministériel du cabinet, eh bien, vous devez avoir toutes les provinces. Donc, il y a déjà quelque chose qui s'était fait pour que les choses changent. Rappelez-vous, madame, lorsqu'on a commencé cette histoire de décentralisation, nous étions parmi ceux qui ont élevé les taux pour dire qu'au Congo, décentralisation signifie chacun retourne chez lui. Et que donc, il fallait faire attention. Parce que si on fait décentralisation, les gens vont se considérer que non, ça y est, nous tous, c'est chez nous. Vous, vous rentrez chez vous. Nous avons l'expérience de ce qui s'est passé au Katanga, de ce qui s'est passé au Bas-Congo. Donc, c'est, pour le commun des mortels, c'est ça la décentralisation. Et on ne devait pas donc dénoncer aux gens. Le fait que la décentralisation a eu comme revers que la tribu ou l'ethnie qui avait le gouvernorat avait tout presque, ou dans son cabinet, il n'y avait que le représentant de cette ethnie-là. Mais le principe, c'est qu'en démocratie, n'accède au pouvoir ou ne gère les choses que ceux qui ont gagné les élections. Ça, c'est le principe. Et si vous voulez donc accéder aux charges publiques, il faut gagner quelque part les élections. Et le système démocratique qui a été posé par notre constitution prévoit que, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, il y a des échelons qui permettent que, lorsque vous avez gagné, vous accédez. Donc, les gens ne doivent pas attendre que dans le temps, on demande parce qu'il y a une expérience d'autant, une natalité, il ne peut pas, dans un procès démocratique, accéder aux responsabilités.
Et donc, il faut ignorer les compétences parce que on n'a pas gagné les élections ou parce qu'on n'a pas accédé au pouvoir.
Non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est-à-dire pour ceux qui ont gagné les élections, bah, chaque endroit où on doit mettre une responsabilité, on doit confier la responsabilité à quelqu'un, et bien sûr être le meilleur de la structure. C'est ce que moi, j'ai voulu précisément dénoncer l'inaction par rapport aux choses qui avaient déjà commencé, ça veut dire une sorte de répit pendant qu'il y avait déjà un élan qui était de combattre non seulement la corruption, mais également de combattre la discrimination. C'était important que nous puissions relancer et consolider davantage cet élan-là pour que tous les Congolais se retrouvent chez nous au Congo, chacun est utile, parce que c'est vrai, nous avons constaté que dans un certain nombre de choses, lorsque déjà le chef n'est pas compétent, tout le reste, son combat sera de combattre tous ceux qui sont compétents dans les corps ou dans la structure. Alors, bon, ça fait déjà, lorsque déjà on a commis l'erreur de mettre au sommet, c'est lui qui n'est pas compétent, et bien la première conséquence de son mandat ou de son régime, et bien c'est de combattre tous ceux qui sont compétents au sein de la structure. Alors ça, le fait qu'on n'a pas continué la série, n'est-ce pas, de la lutte contre notamment la division, parce qu'à une certaine époque, Mobutu avait vaincu la discrimination et la division. Mais vers la fin de son régime, il a rechuté et s'est retrouvé encore, n'est-ce pas, replié sur sa propre tribu. Donc, cette lutte-là, dans un pays comme le nôtre, nous avions déjà des acquis dans l'unité nationale, c'est sur ces acquis-là qui ont fait que quand le Kikanda du Bas-Congo, du Bas-Zaïre, ex-Bas-Zaïre, eh bien, a été élu à Goma. Donc, cet élan-là, tout chef qui prend ce pays en charge doit absolument veiller à ça. Nous déplorons le fait qu'il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement et la conséquence, c'est que tous les cabinets politiques, ici à Kinshasa, bien, chaque ministre n'a comme conseiller, en tout cas, c'est plus de 80% des originaires de sa province et à la limite de sa. Et ça, Il faut qu'une autorité nationale, centrale, puisse combattre ça. Parce que la corruption, la discrimination, ce n'est pas les autorités locales qui vont combattre ça. L'impulsion doit commencer par la tête. Si la tête ne voit pas ça et s'engage à combattre ça, là, nous sommes désolés par rapport à la situation.
Mais comment vous réagissez à la déclaration de Madame la ministre qui dit que la participation à la vie publique devra d'abord passer par la consolidation de la paix?
Non, c'est-à-dire que c'est pas vrai intégralement. Parce que c'est comme en Angola, tout en étant en guerre contre l'UNITA, et bien on était en train de consolider une nation. Donc le prétexte de la guerre ne doit pas permettre aux dirigeants de croiser les bras. Non, à marge de la guerre, ou bien à marge de la lutte pour la paix, on doit savoir que l'on doit gérer et consolider le pays. Et notamment parmi les faiblesses de notre pays, ces discriminations-là, et en particulier la corruption. Parce que l'injustice, c'est le point final, le terminus du salut de la population. Lorsque par-ci, par-là, on a violé vos droits, par exemple le fait que vous m'avez ici dernièrement procédé au recrutement des magistrats, des magistrats, ça fait plus de 30 ans. Et lorsque, par exemple, l'un des compatriotes qui estimerait que lui, son dossier a été déclassé pour tel ou tel autre motif, doit avoir la possibilité d'aller recourir vers la justice et d'avoir des causes par la justice. Mais la corruption qui ronge le pays, mon Dieu, la corruption, c'est qu'à faire là, on ne va pas baisser la garde. Cette corruption-là, donc, pousse la population congolaise, même les voix, de n'avoir plus confiance en ce qui fait qu'à Kinshasa. Là, à la mode, c'est depuis tous ces temps, tous les Kinois, plus de 60% ont l'ambition, ou 80% l'ambition, de s'en aller, d'aller en Europe, parce qu'ils considèrent que non, il n'y a pas d'espoir. Merci. C'est principalement, et notamment, par rapport à la pauvreté, en particulier par rapport au fait que la justice.
Merci, Maître Ruffin Louko. Monsieur William Baillé, le thème international est inclusion et droit de participer à la vie publique. Est-ce que ce thème est-il évocateur pour la RDC?
Tout naturellement, pas seulement pour la RDC, mais pour le monde entier. Vous savez très bien que le thème national est toujours défini à l'occasion d'une séance extraordinaire qui se déroule au Conseil des droits de l'homme à Genève. Les représentants des pays sont là, les experts internationaux sont là, les experts indépendants qui font un constat de manière générale sur une situation bien déterminée dans le monde et définissent en ce moment-là, un thème, ils disent, voilà, c'est ce message-là qu'il faut transmettre cette année aux populations du monde, à l'humanité tout entière. Ce thème, il est révélateur d'un certain nombre de choses. Je vous ai dit tout à l'heure que ce thème a été le résultat d'un constat d'échec pendant des années, pas seulement en Afrique, pas seulement en RDC. Partout dans le monde, on constate que lorsque un système arrive au pouvoir, il y a, d'une manière ou d'une autre, l'exclusion. Et cette exclusion a provoqué des mécontentements. Cette exclusion a provoqué des guerres. Je rappelle au passage qu'on a toujours tendance à prendre les conflits armés comme étant les causes de violation des droits de l'homme. C'est faux, madame. C'est faux, c'est archi faux. Les guerres, les conflits armés ou tout autre acte similaire sont généralement la conséquence de l'exclusion, la conséquence de la non-participation, de la non-prise en compte d'un point de l'opinion d'une catégorie de personnes bien déterminées ou d'une catégorie de population. Lorsqu'on les met à l'écart, lorsqu'on ne veut pas les entendre.
Mais on a suivi Maître Louko qui a parlé du principe de la démocratie, qui dit que c'est ceux qui ont gagné les élections qui vont gérer la chose publique.
Je dirais contre Maître Louko, je savais que vous deviez vraiment m'interpeller à ce sujet, je regrette, parce que il est juriste, il sait très bien que même lorsqu'on a gagné les élections, il n'est pas tout indiqué que l'on soit maître de tout un système en démocratie, c'est justement ça qui pose d'énormes problèmes dans nos États. Lorsque on gagne les élections, on pense que ben on a travaillé, on a durement, on a travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce niveau. Ceux-là qui m'ont aidé à arriver à ce niveau, ce sont ceux-là qui doivent manger, ce sont ceux-là qui doivent être à table. Allez, tout le reste à terre. On les sert au coin du mur ou bien peut-être même dehors. Et c'est justement ça qui commence comme étant la véritable exclusion. Or, lorsqu'on arrive au pouvoir, vous avez vu la réaction de Obama lorsqu'il a été réélu. La première déclaration, c'était à l'endroit du perdant en disant que nous devons composer ensemble pour le développement des États-Unis. Nous avons besoin de la compétence des perdants pour nous permettre de travailler. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler.
Merci, Monsieur William Baye, Maître Richard Bondo. Je vous repose la même question par rapport au thème. Est-il évocateur pour la RDC?
Dans ses multiples facettes, ce thème est très évocateur. Pourquoi? Pour la RDC, pourquoi? Parce que dans ce pays, surtout la descente aux enfers est arrivée avec la FDL, à laquelle Maître Louko a travaillé très activement, pour le compte de laquelle le Maître Louko a travaillé très activement. Je suis déçu parce que lui, quand il dit un régime a gagné les élections, mais lui, quand il était conseiller, il avait gagné quelles élections? Et où, dans quelle circonscription? Il était conseiller du ministre. C'est-à-dire, c'est par copinage, par certaines affinités, que les gens accèdent à certains cabinets. Il y a des gens ici qui ne peuvent même pas envoyer une lettre d'intention au cabinet d'un ministre parce que ils sont étiquetés comme appartenant à l'opposition. Et pourtant, des gens dévoués à la cause de la patrie, toutes les remarques qu'ils font, c'est peut-être pour que le pays soit bien géré. Mais seulement par le fait de son opinion, il est exclu de la gestion. Et vous demandez à ce monsieur de vous accompagner dans votre programme. Comment va-t-il être solidaire de votre programme alors que lui est exclu? C'est ainsi que je dis, ce thème est tellement évocateur pour la RDC parce que dans ce pays, la Constitution dit une chose, mais dans la pratique, c'est la discrimination, c'est l'exclusion, et puis, cerise sur le gâteau, c'est la corruption.
Merci, Maître Richard Bondo. Maître Ruffin Louko, il y a une réaction pour vous qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Dans la ville de Goma, au Nord Kivu, la RDC, tant que ceux qui ont commis des crimes graves en prenant des armes contre leur propre pays participeront à la vie publique comme prime de guerre, la RDC ne méritera pas d'être appelée état de droit.
Maître Louko, brève réaction.
Non, d'abord, ça c'est une lutte que tous les Congolais, n'est-ce pas, ont engagé de ne plus permettre, d'abord, le gouvernement avait même annoncé qu'il n'y aura plus jamais de négociations. Parce que lorsqu'il y a élection, les négociations doivent se faire pour que tous ceux qui prennent la Kalachnikov ne puissent plus accéder aux responsabilités par la voie des armes. Cette procédure militaire simplifiée pour accéder aux galons et aux armes. Je suis désolé par rapport aux confrères Bondo qui estiment que ce débat ici doit s'attaquer aux personnes. Moi, je n'ai pas cette addition-là et cette habitude de s'attaquer aux personnes, mais je vais d'abord simplement répondre que pour devenir conseil des ministres, il ne faut pas gagner des élections. Et puis, moi, je suis pas de la province des ministres de la justice au sol à l'époque. Je n'étais pas de la province. Il m'a pris parce que j'étais avocat, praticien, il a estimé que non, son mandat, il ne pouvait pas le terminer sans ma contribution. Donc, ça n'avait rien à voir avec les clientélistes, ça n'a rien à voir. Le confrère Bondo sait que pour mettre les feux, ça n'a rien à voir. Et il sait, dans notre profession, qui représente également ma petite contribution. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, par rapport à la situation générale du pays, nous sommes tous d'accord que ça doit cesser les cycles de négociation, de nous imposer continuellement. Et toutes ces guerres-là, ce sont des guerres qui nous sont imposées, qu'on nous impose continuellement des dirigeants qui ne sont pas passés
par la voie des urnes. Et ce sont notamment les dirigeants militaires, politiques et consorts qui considèrent que pour eux, la RDC doit être maintenue dans l'état de violence pour qu'elle accède considérablement, n'est-ce pas, aux ressources publiques. Donc, je considère que nous devons lutter pour que dans notre pays également, comme dans tous les pays du monde, les meilleurs puissent diriger dans tous les secteurs, que le meilleur pharmacien soit, en tout cas, en ce qui concerne notre pays, le ministre disait s'il y a un département de la pharmacie qui fasse à lui, que ce soit les meilleurs professeurs qui soient les recteurs, que ce soit les meilleurs ceci qui soient le préfet. Donc, bref. Si tu dis qu'il a tout intellectuel, mon Dieu, tout intellectuel de la République, ça n'a rien à voir, oh non, mais je me demande si le coffret bon de Pulsa Nouk, que j'ai contribué au AFDEL alors que moi je suis à Kinshasa, depuis tout ça, ce mouvement-là m'a trouvé ici, j'ai contribué à ça parce que tout simplement nous avons appris comme conseiller, je suis désolé par rapport à ce débordement-là, je ne suis pas, moi je ne suis pas guéri, non, si je ne suis pas passé par cela, je suis ici déterminé.
Vous l'avez déjà dit,
donc, bref, pour dire tout le monde, madame, que je ne suis pas de cette coloration-là, cet uniforme-là, depuis que je suis venu par la fenêtre, pas du tout.
Maître Ruffin Louko, vous l'avez déjà dit, les auditeurs sont nombreux à nous envoyer leurs réactions. Christian Moutsa de Bukavu Sud Kivu, le premier obstacle dans la mise en pratique des droits de l'homme en RDC réside dans sa vulgarisation. La Déclaration universelle des droits de l'homme était un petit texte contenant 30 articles seulement. Je ne sais pas si dans notre pays, on s'est donné la peine pour le vulgariser en les traduisant, ne fût-ce que dans nos quatre langues nationales. Elohim Aïroi de Bounia en province orientale au Congo, les lois constituent un arsenal d'armes hors usage où seuls les bas peuples en subissent les pires depuis des décennies. Et mes copies de Boutembo, Nord Kivu, le droit de participation à la vie publique relève tout d'abord d'une conscience personnelle. Les Congolais n'ont pas encore cette culture, ils n'y trouvent d'intérêt. Monsieur William Baye.
C'est une réaction qui vient à point nommé. Vous savez très bien que l'ONG que j'ai eu le mérite de diriger est dénommée Promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que dès le premier jour où nous nous sommes réunis avec les amis que je salue au passage, qui sont en train d'ailleurs même de nous suivre, avaient constaté qu'il y avait un véritable déficit de la connaissance même du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des 5 catégories de droits qui se trouvent dans cette déclaration, il fallait, pour nous, nous mettre résolument au travail pour faire la promotion, non seulement du texte en tant qu'instrument, mais encore et surtout des 5 catégories de droits qui sont contenues dans ce texte-là. Et cette réaction, à mon avis, se justifie parce que l'une des causes de violation des droits de l'homme réside à l'intérieur de la méconnaissance du texte, de la méconnaissance des droits. La déclaration n'a que 30 articles, vous l'avez dit, mais la constitution congolaise du 18 février 2006 a réservé 56 articles pour finalement éclater les 5 catégories de droits qui se trouvent dans la déclaration. Donc, ce parallèle, à mon avis, devait amener, si la constitution de la République démocratique du Congo était véritablement respectée, le respect placerait la RDC parmi les pays les plus respectueux des droits de l'homme.
Alors, Monsieur William Baye, vous avez dénoncé la discrimination et la corruption. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la participation du citoyen à la vie publique en RDC?
Il appartient aux politiques de prendre des mesures conséquentes dans la pratique. Parce que les textes, on en a tellement trop dans notre pays. Ce qui importe pour les populations, c'est de voir que lorsqu'un président de la République est élu, qu'il soit capable, honnêtement, de tendre la main à toutes les provinces de la République, d'intégrer dans son gouvernement, d'intégrer dans l'administration, toutes les catégories de citoyens. Que vous soyez personne à mobilité réduite, que vous soyez, je ne sais pas, il faut organiser un système de sorte que chacun des Congolais puisse reconnaître que Nous avons un président de la République, même si nous ne l'avons pas élu, dès lors qu'il est élu, il est le président de la République, il est notre président. Voilà l'acte qu'il vient de poser. Il a mis en place un gouvernement qui est représentatif de toutes les provinces, de toutes les tendances, de toutes les couches sociales. Il y a un gouvernement au niveau de chaque ministère, il y a également cette pratique. Au niveau des administrations, il y a également cette pratique. C'est de cette manière, à mon avis, qu'il faut lutter concrètement contre la discrimination, contre l'exclusion.
Merci, M. William Baillet. Maître Richard Bondo, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la participation des citoyens à la vie publique? Il y a cet auditeur, par exemple, Jean-Bernard Mibeko, qui dit ceci: pour promouvoir la participation des citoyens à la vie publique, il faut, entre autres, combattre l'impunité et la corruption, sensibiliser les citoyens de leurs droits civiques, réaliser des élections transparentes et démocratiques à tous les niveaux et obliger les dirigeants à rendre compte de leur gestion au peuple.
Oui, le premier atout, c'est que les dirigeants cultivent ce que j'appelle dans ma théorie l'esprit État. Il faut que chaque dirigeant, en commençant par la première institution, à savoir le président de la République et toutes les autres institutions qui suivent, que tous les animateurs de ces institutions aient présent à l'esprit ce que est intériorisé au moins, ce que j'appelle l'esprit État. C'est-à-dire de savoir que on a la charge publique pour servir la communauté. C'est-à-dire nous sommes conscients du devoir que nous avons de ne rendre service qu'au peuple qui nous a donné mandat. À ce moment-là, le revenu national sera équitablement redistribué, parce que il est inconcevable que un ministre touche plus ou moins 12 000 dollars, mais que le planton, lui, touche 50 000 francs ou 60 000 francs. 70 000 francs. Ça n'a pas de... Nous avons les mêmes besoins. Les soins de santé, l'éducation des enfants, le transport, tout ça. Il faut que les gens se mettent à l'esprit qu'il faut d'abord servir avant de se servir. Et je crois que Mobutu avait lancé ce slogan, mais...
Est-ce qu'il mettait ça en pratique?
Lui, je crois, il l'a mis en pratique. Parce que n'eût été Mobutu, qui devient l'exutoire pour les gens qui dirigent aujourd'hui, de dire, mais 32 ans de Mobutu, mais non. Mobutu a réussi à réunifier ce pays. Si aujourd'hui nous nous battons contre la balkanisation, qui a semé le sentiment qu'on appartient à une seule nation et qu'on est congolais, c'est Mobutu. Donc, paix à son âme, mais que les gens qui sont venus pour diviser les Congolais, qui ont pris les armes contre la République, ce sont eux qui gèrent aujourd'hui le pays. Mais lorsque nous les interpellons pour leur dire, vous gérez, mais vous gérez pour notre compte, écoutez-nous, est-ce qu'on nous écoute? Comme cette émission, lorsque nous parlons là, les dirigeants nous écoutent, mais est-ce que, disons, nous entendent, mais est-ce qu'ils nous écoutent?
On retient pour vous, donc, il faut servir avant de se servir, Maître Richard Bondo. Maître Ruffin Louco, on va prendre deux dernières réactions des auditeurs. Chris Agana qui dit ceci: est-ce qu'il y a, droit de l'homme au Congo? Je pense qu'on peut célébrer cette fête partout dans le monde, mais sauf en RDC, où l'homme est privé de ses droits. Trésor Sopo de Kisangani en province orientale. La participation à la vie publique dans le cas d'espèce nous renvoie à la problématique d'accès dans l'administration publique qui s'est rajeunie du jour au jour sans qu'il y ait une offre officielle en vertu du principe de l'égalité des chances qui doit caractériser un état de droit. Cette situation cristallise la discrimination et les favoritismes au sein de l'administration publique que décrit cette ONG de défense des droits de l'homme.
Bon, ce qui est dramatique dans notre pays, c'est que tout le monde crie dans le désert. On n'écoute personne. Je dois rappeler ici que moi, je ne suis pas ici dans cette émission comme représentant du gouvernement.
Vous êtes là comme expert.
Je ne suis pas là comme représentant du gouvernement. Je suis un expert comme tous les autres. Et le drame, c'est que personne n'écoute personne. Donc, moi, ça fait un bureau 18 ans que je suis consultant l'Assemblée nationale, nous avions analysé un certain nombre de choses. Moi, je crois, par rapport aux propositions qu'il faut donner, très rapidement, c'est qu'il faut continuer à instruire les ministres qu'aucun cabinet politique ne peut être agréé s'il est monocolore, c'est-à-dire si toutes les provinces ne se trouvent pas dans le cabinet. Ensuite, il faut se rappeler que c'est important dans notre pays que nous puissions donner la chance à tout le monde, pas seulement dans le texte, mais dans la pratique. Parce que lorsque, par exemple, dans l'armée, si l'armée se retrouve à plus d'autant de pourcentage d'officiers de ces groupes, là, on n'a pas donné la chance à tout le monde. Donc, ça dit, il y a là un certain nombre de choses qu'il faut continuer, notamment celles que j'ai vu de citer là. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut citer. Et en particulier, il faut qu'on parle des tribunaux administratifs. Ces tribunaux administratifs sont ceux qui suivaient les actes des autorités administratives, notamment des différentes exclusions. Et ça, c'est pratique. Les tribunaux administratifs, au niveau des provinces, au niveau, n'est-ce pas, de la capitale, au niveau même local, pour que les autorités administratives qui se sont fait principalement, qui, parce que vous n'êtes pas de telle obédience, de telle ceci, vous êtes exclus facilement. Alors, que la population ait la possibilité, n'est-ce pas, d'aller recourir devant ce tribunal-là pour anéantir ou censurer les actes.
En conclusion, maître Loco, en conclusion, il nous reste au moins deux minutes pour mettre fin à cette émission.
En conclusion, je considère que nous avons tous la chance de contribuer à l'unité nationale. Nous avons déjà hérité ça. J'ai dit que le maréchal a réussi pendant 20 ans, mais c'est à la fin qu'il a récité. Donc, nous sommes très jaloux, nous tous, de l'unité nationale et nous devons tous contribuer à ce que notre pays puisse avancer. Nous tous, les mains dans la main. Moi, j'ai fait au Bas-Congo, j'ai fait au Bandeau, j'ai fait à
l'Université. Maître Baluko, Monsieur William Baye, on aime juste pour conclure.
Très heureux de prendre part à cette émission, mais surtout, j'insiste qu'il faut changer le système et mettre en place un système qui puisse inclure tous les Congolais afin que nous puissions participer tous au développement de notre pays.
Merci, M. William Baye, M. Richard Bondo.
La vie publique n'est pas que dans les ministères, ni à la présidence de la République. La vie publique, c'est même dans la gestion de tous les autres services publics, ainsi que dans les entreprises qui relève de l'État, du portefeuille de l'État.
Merci.
Il faut démocratiser tout ce service.
Merci,
avec des compétences
Richard,
avérées.
Bondo, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Mathieu qui a réalisé cette émission, assisté de Samuel Kachat, supervisé par Julien Niamouini. La technique est assurée par Guy Manzangou. Au micro, Kélin Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.